个动作。
Bonjour chers auditeurs, vous êtes bien sur Mode d'emploi, format secret de fabrication, où nous allons parler de la vie dans les entreprises et les résistances en compagnie d'inspecteurs du travail, en l'occurrence une inspectrice qui est ici avec moi, Sarah, et nous allons recevoir bientôt l'appel d'un autre camarade qui lui est dans le Rhône. Donc Mode d'emploi sur 106.3 FM ou www.rfpp.com. Net. Alors aujourd'hui nous avons une émission un peu spéciale puisque nous allons parler surtout d'inspection du travail, notamment qui veut nous museler, qui veut museler l'inspection du travail et comment les forces en présence s'y prennent pour nous le faire fermer. Alors donc ce soir, on va commencer par parler un peu de quelques principes de base qui guident l'action de l'inspection du travail et pourquoi ces principes sont particulièrement irritants pour les pouvoirs publics, relais du patronat, relais très souvent zélés. Et donc on va commencer par parler du point principal qui pose toujours problème, c'est-à-dire l'indépendance. Alors je me tourne vers Sarah. Pourquoi est-ce qu'on met autant l'accent sur l'indépendance de l'inspection du travail et pourquoi est-ce que ça frotte un peu de ce côté-là?
Ben en gros, pour être simple, l'indépendance de l'inspection du travail, c'est ce qui nous permet au quotidien d'exercer correctement notre métier sans recevoir de pression. Enfin, ça c'est la théorie. Mmh. Et donc ce principe est notamment reconnu par l'OIT.
Alors l'OIT, Organisation internationale du travail.
À laquelle la France est adhérente. Mmh. Donc, je vous ai préparé des petites définitions. Donc, quand on parle d'indépendance pour l'OIT, ça s'exprime en ces termes. Le personnel de l'inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
D'accord. Donc, indépendance vis-à-vis des pouvoirs en place, comme de toute personne qui chercherait à interférer dans le métier.
Exactement. Mmh.
Et donc ça, c'est accepté par les pouvoirs publics en France, hein ?
En théorie, oui.
D'accord.
Parce que même notre propre Direction Générale du Travail a édité un petit guide avec des principes de déontologie où sa définition est très stricte et très précise, puisqu'elle dit « L'indépendance est une garantie essentielle de l'effectivité du droit du travail. Mmh. » Elle le reconnaît donc. Et donc, il est écrit « Il convient d'entendre par influence extérieure indue, notamment toute manœuvre, pression, menace, chantage, voie de fait, diffamation, dénonciation calomnieuse, campagne publique de dénigrement, proposition ou octroi d'avantages, en vue d'orienter l'action de l'inspection du travail pour des motifs directement ou non étrangers à la mission.
Mmh. » Ah oui, effectivement, c'est assez
c'est
complet.
C'est clair.
Hein, oui. Oui, c'est clair. Et normalement, avec ça, on devrait être bien protégé, en réalité.
En théorie, oui.
Ah oui, en théorie seulement. Oui, alors effectivement, c'est le sujet de cette émission. Normalement, on a un arsenal qui nous permet effectivement d'être
protégé.
Voilà, c'est ça. Mais on voit que dans certaines situations un peu critiques, ça coince, voire même ça rétropédale, et on se retrouve à jouer à front renversé. Alors, nous allons aborder plusieurs cas aujourd'hui. On va commencer par le cas de l'affaire Marteau, qui est une affaire qui a secoué un peu l'inspection du travail entre 2010 et 2013. Alors, tout commence en octobre 2010, quand Jean-François Marteau, PDG de la société Gauthier à Pavilly, en Seine-Maritime, qui est une société de charpente couverture avec 260 salariés, décide de licencier un délégué du personnel soupçonné de vol dans l'entreprise. Alors, dans ces cas-là, alors quand on a un délégué du personnel qu'on veut licencier, quelle est la procédure normalement ?
Eh bien, c'est un salarié protégé, donc il faut demander l'autorisation de licenciement à un inspecteur du travail.
C'est ça, à l'inspecteur de son ressort.
Exactement. Mm-hmm. Procédure classique en théorie.
Procédure classique en théorie. Donc, l'inspecteur est saisi, il ne tarde pas à donner sa réponse. Le 3 novembre 2010, l'inspection du travail refuse le licenciement. Alors, ces décisions sont toujours motivées, hein, c'est ça.
Donc, oui.
Voilà. Donc, grave problème de fond. Les autres délégués du personnel n'ont pas été correctement consultés. Et en plus, il semblerait que le vol soit en fait un coup monté, puisque c'est des actes qui ont lieu fréquemment dans l'entreprise par autorisation tacite de l'employeur, c'est-à-dire qu'on peut emprunter du matériel et on peut prendre des restes de matériel avec soi. Donc ça, pour toutes ces raisons, l'inspection du travail refuse le licenciement. Et alors là, tout s'enchaîne, si on peut dire. C'est-à-dire qu'en fait, Monsieur Marteau prend ça extrêmement mal, et il met en place une stratégie de la tension tout à fait aboutie. Il commence par théâtraliser une grève de la faim, qu'il entame 5 jours plus tard, et ouvre un blog où il romance son affaire. Et il romance son affaire et tient le compte à rebours des jours qu'il n'a pas mangé. Il évoque un internement d'urgence à l'hôpital. Il commence à envoyer des messages bouleversants à sa famille, qu'il met évidemment sur son blog. Il décrit les coulisses de l'évolution. Il écrit des courriers incessants au ministère, qu'il met dans son blog. Il commence à faire pression. Évidemment, dans le contexte, il se retrouve très rapidement avec une multiplication de soutiens. Alors notamment parce que bon, il dit des choses qui sont un peu dans l'air du temps. Il s'en prend aux fonctionnaires qui sont des feignants, incapables de reconnaître leurs erreurs. Il utilise un lexique guerrier. Il est en guerre contre l'administration. Et alors, vous êtes de ces fonctionnaires qui faites mourir chaque jour des dizaines d'entreprises avec votre lecture stalinienne du code du travail. C'est trop d'honneur, Monsieur Marteau. Comme c'est dans l'air du temps et qu'il invoque toutes sortes de problèmes de santé mentale, etc., à son appui, il reçoit beaucoup de soutien. Il reçoit le soutien de sa fédération, la Fédération française du bâtiment. Il reçoit le soutien des députés locaux, le soutien d'un gendarme qui intervient dans la procédure, sans citer son nom, merci. Le soutien des médias locaux, notamment Paris-Normandie, qui va à peu près relayer tout ce qu'il peut envoyer dans tous les sens. Donc ça va, il n'est pas dénué de soutien. Alors le mieux du mieux, c'est que cet homme-là reçoit le soutien de ses propres salariés. Alors ça, c'est fabuleux. Donc première journée, le 10 novembre, donc 2 jours après le début de la grève de la faim, opération escargot dans Rouen. Donc ses salariés, une 60aine de fourgons, 6 semi-remorques. On se dit, waouh, ça c'est de l'occupation en force. Donc ils font une opération escargot dans Rouen pour soutenir leur patron. Et rebelote le 22 novembre, les Gautier, maintenant qu'on les appelle comme ça, montent sur Paris pour être reçus en délégation par le ministère du Travail et il a des taux faramineux de 100% de grévistes. Le même jour, il écrit au ministre « Monsieur le ministre, cela devient urgent, mes employés partent sur Paris ce matin pour me soutenir, c'est très touchant. Mais voilà, leur grève de soutien est en train de mettre en péril l'entreprise. » Alors, il cite évidemment, l'inspecteur du travail, la hiérarchie de l'inspecteur du travail. Bref, tout le monde est contre lui. Et le risque, évidemment, c'est qu'une entreprise de 200 salariés tombe. Et donc, vous imaginez les problèmes pour l'emploi, tout ça. C'est très touchant. Donc 2 jours plus tard, heureusement pour lui, Monsieur Combrexel, dont nous allons beaucoup reparler dans cette émission, puisque nous avons décidé d'ouvrir un dossier sur cet homme-là, qui a un lourd passif et qui continue à sévir.
Un lourd futur aussi.
Oui, apparemment. Oui. Donc, nous reviendrons sur cet homme-là. En tout cas, à cette époque-là, le directeur général du travail casse la décision de l'inspection du travail. Évidemment, on offre ses services à admettre que la décision est un peu politique, et qu'en fait, elle est infondée en droit. Nous verrons ce qu'il en est. En tout cas, Monsieur Marteau en profite pour surenchérir. Et il dit maintenant, je souhaite être à l'abri de tout contrôle de l'inspection du travail. Voilà. Bon, ben, on en est là. Alors, par contre, bon, il y a peut-être quelques éléments un peu à détailler là-dedans. Parce que tout n'est pas exactement comme il le prétend. Bon, d'abord, quand je parle de charpente couverture, c'est une profession qui est assez, comment on pourrait dire,
infractogène.
Ouais,
oui,
accidentogène.
Infractionniste et accidentogène.
Exactement. Pourquoi ?
Ben, la chute de hauteur.
Chute de hauteur, oui, c'est ça.
Bah, première cause de mort sur les chantiers.
Première cause de mort sur les chantiers. Un accident auquel est particulièrement
Exposé un couvreur.
Voilà. Parce que, ben, on travaille en toiture. Voilà. et que ben qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter l'accident normalement?
Ben tout simplement former ses salariés et ensuite leur donner des équipements de protection.
D'accord.
Pour éviter la chute.
C'est ça.
Sauf que forcément, un salarié qui fait attention est un salarié qui va moins vite.
Oui.
Et ça, pour le chiffre d'affaires d'une entreprise, ce n'est pas acceptable.
Ce n'est pas acceptable. Et ça prend du temps aussi de sécuriser un chantier de toiture.
Moins que de compter les morts, mais enfin oui, un petit peu.
Enfin oui, mais on compte les morts après. Ça prend du temps avant de sécuriser.
Oui.
C'est ça le problème. Donc on se dit, ah, il y a peut-être à gratter là. Et ben justement, quand on regarde un peu le track record de notre ami Monsieur Marteau et de son entreprise Gauthier, on s'aperçoit a posteriori qu'il n'y a pas moins de 10 PV de l'inspection du travail à l'encontre de ce PDG qui ont été transmis au parquet. 3 PV en 2007, 1 en 2008, 1 en 2009, 1 en 2010 et 3 en 2011.
Beau palmarès.
Pas mal, c'est pas mal, c'est un très beau score. On s'aperçoit donc que Monsieur Marteau ne prend pas des gants avec ses chantiers et avec ses salariés notamment. Et que donc, il n'est vraiment pas tout blanc dans cette affaire. Alors, mais revenons. Alors, on se dit, mais pourquoi ses salariés le soutiennent? Pourquoi ses salariés?
Bonne question.
Bonne question, bonne question. D'autant plus qu'on a des taux de 100% de grévistes.
Taux record, en plus.
C'est ça, exactement. Donc, 100% de grévistes, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'en fait, l'intégralité des déplacements des salariés ont eu lieu avec les véhicules de l'entreprise. Oui, parce que les fourgons et les semi-remorques sont tous siglés, Gauthier. Ça, c'est sûr. Il n'a jamais été question que les salariés concernés ne perdent de leur salaire. Donc, ils ont fait grève payée. Et ils n'ont même pas payé l'essence. Les salariés bénéficiaient du soutien syndical actif du syndicat patronal, la fédération. Et le porte-parole du mouvement n'était autre que la secrétaire de direction de Monsieur Marteau. Bon, quand on voit une grève comme ça, on se dit qu'effectivement, il y a anguille sous roche. Mais bon, on n'est pas là pour juger de ça. C'est ce qui est fort dommage, c'est que patatras, à peine un an plus tard, en juin 2011, le tribunal administratif casse la décision du ministre qui cassait la selle de l'inspectrice et donc refuse le licenciement qui avait été autorisé par le ministre du Travail. Et même la conséquence, enfin l'ultime développement de tout ça, c'est que le Bureau international du travail, voilà. Donc, qu'est-ce que le Bureau international du travail? C'est l'organisme exécutif, on va dire, de l'Organisation internationale du travail. Voilà. Et donc, il peut être saisi. Voilà. Ce qui a été le cas. Et on se retrouve dans la situation suivante. Le Bureau international du travail condamne en termes diplomatiques, mais bon.
Autant qu'il le peut, on va dire.
Voilà, autant qu'il le peut, les agissements du ministre en disant que, successivement, la décision casser, à fragiliser l'inspection du travail alors qu'elle n'était pas fondée, le fait de casser cette décision n'était pas fondée en droit, ce qui est très fragilisant pour l'action de l'inspection, que par ailleurs l'inspection n'a pas été protégée contre les influences extérieures indues, et donc atteinte à l'indépendance. Et donc, tout ça, ça veut dire que là, on voit qu'il y a eu une faillite dans le système. Alors comment on explique ça? Comme ça, on a un ministre qui à l'époque est Monsieur Bertrand, qui est un ministre de droite.
Que Monsieur Bertrand préfère les intérêts des patrons à ceux des salariés.
On peut se dire ça, oui. Ouais. Il y a eu aussi un mouvement de panique, probablement, d'un employeur qui faisait grève de la faim, qui prétendait qu'il était à l'article de la mort. Mais on a préféré, là encore une fois, la mousse médiatique.
Au droit du travail.
Tout simplement, au droit du travail et aux principes de base comme l'indépendance de l'inspection. Voilà, donc ça c'est notre premier exemple. On voit bien que les patrons peuvent aussi se comporter comme des délinquants, ça nous en sommes persuadés, mais ça c'est vraiment une illustration par l'exemple. Mais voilà, on voit aussi que les patrons savent quand il le faut autoriser leurs salariés à faire grève, ce pourquoi les salariés leur en sont fort reconnaissants, comme la chanson qui va arriver en est l'illustration parfaite.
Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine, l'idée de faire nos 8 heures nous remplit.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume 2 fois par jour.
Oh. Bon voilà, nous avons donc une petite séquence avec Monsieur Marteau, le patron rêvé, avec sous les remerciements de ses salariés. Alors l'épilogue de cette affaire, c'est qu'évidemment quand une décision comme celle-là est cassée, l'employeur doit rembourser intégralement le salaire qu'il n'a pas versé à son salarié pendant qu'il a été licencié. Et quand c'est le ministère qui casse une décision défavorable de l'inspection, le patron peut se retourner contre le ministère. Donc en réalité, on pense que M. Bertrand était parfaitement conscient que sa décision était illégale, mais il a sauvé la mise de l'employeur en agissant volontairement contre la loi. Et qui est-ce qui paye tout ça ?
Le salarié.
Non.
Et l'inspection du travail.
Non. Allez, encore un peu. Le contribuable.
Ah oui, bah oui. Oui, les sous.
Les sous. Les sous, bah, évidemment, ce sera à la charge du contribuable. Celui qui, normalement, râle contre les impôts, qui paye les fonctionnaires feignants, qui, nanana, une lecture stalinienne du code du travail, etc. Donc voilà, hein, on voit d'où viennent les surcoûts. Alors maintenant, bon, on a déjà vu cette première affaire qui, heureusement, s'est terminée par, on va dire, l'humiliation des méchants et la critique bien sentie du Bureau international du travail. Maintenant, nous allons aborder une autre affaire. Donc, sous peu, nous devrions recevoir l'appel de notre camarade du 69, du Rhône. Pour le moment, rien, mais c'est pas grave. Alors, voilà, un peu, je vais commencer cette affaire. Donc, ça s'appelle l'affaire Tefal, qui a secoué, alors là, beaucoup plus récemment, le milieu de l'inspection du travail, et qui est encore en cours, comme nous allons le voir. Alors, l'affaire Tefal, ça se passe à Annecy. Où une très importante entreprise, donc Tefal, est sur place, qui est un très gros employeur de la région, même un des plus gros, et qui, pratique un management, on va dire, relativement expéditif. Hein, en tout cas, les relations sont tendues et l'intervention de l'inspection du travail n'est jamais bienvenue. On pourrait se dire que tout est normal puisque c'est pas la seule entreprise où les relations peuvent être tendues à la fois avec les salariés et avec l'inspection du travail. Enfin, toujours est-il que en 2012, une inspectrice qui s'appelle Laura Pfeiffer arrive au poste et donc Tefal est sur son secteur.
Donc là, elle se dit, et si je faisais mon travail chez Tefal ?
Elle commence, effectivement, à vouloir faire son travail chez Tefal. À ce stade, elle procède à des premiers contrôles. Elle prend contact avec les organisations syndicales. Et évidemment, elle s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc, petit à petit, elle commence à imposer son style, comme on sait faire, c'est-à-dire que elle entame une relation avec l'employeur, une relation faite de contrôle, d'échange de courriers, de demandes, bref.
Classique.
Bah, business as usual. Alors, donc on va voir que à un moment donné, la situation va déraper. Voilà. Donc je crois que nous avons effectivement en ligne notre camarade Kevin.
Oui, alors, bonjour.
Bonjour Kevin, tu m'entends ?
Oui, salut Jérôme.
Alors je suis avec Sarah, donc qui est aussi inspectrice du travail à Paris.
Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Voilà. Donc alors Kevin, donc tu es à la CNT de l'inspection.
Oui, c'est ça, c'est au syndicat CNT. Merci. Donc j'étais en Haute-Savoie et je suis maintenant sur le Rhône.
Sur le Rhône, c'est ça. Alors, donc on a introduit un peu l'histoire de Laura. Donc elle arrive en 2012. Tefal est sur son secteur, très grosse entreprise. Elle commence son travail de contrôle et donc de contrôle et de vérification de l'application du droit du travail. Et c'est sûr.
Et rien ne lui sera épargné.
On va voir que rien ne lui sera épargné, effectivement.
On va voir que rien ne lui sera épargné.
Tout à fait, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça commence pas tout de suite par une relation directe avec Tefal. En fait, si j'ai bien compris, elle ressent d'abord qu'il y a un problème à l'intérieur des services.
Voilà. C'est à la fois une affaire simple et complexe. Au départ, il y a eu une ambiance qui a été créée, notamment par le directeur du travail, visant à la stigmatiser, à l'isoler du collectif et à créer un climat de défiance à son égard.
Comment il s'y prend ?
Donc comment ça s'est passé? Bah, dans plusieurs réunions collectives, à la fois des réunions de service avec des inspecteurs du travail, mais également des réunions avec les organisations syndicales, il va commencer à parler de ses pratiques professionnelles, et notamment de Tefal, et de son attitude lors de ses contrôles dans cette entreprise. Et puis, il va mettre en avant le fait qu'un agent de sa section, un contrôleur du travail de sa section, ne se sent pas très bien dans ce rôle-là et envisage de quitter la section d'inspection.
Alors, à l'époque, on n'a pas encore été réformé de fond en comble. Donc, en tant qu'inspectrice, effectivement, elle est chef de service.
Voilà, elle est encore chef de service. Donc, ça la concerne directement, sauf qu'elle en sera la dernière informée. Personne ne saura, tout le monde saura avant elle que ce contrôleur va quitter sa section. Et donc, elle va l'apprendre un jour, comme ça, par un collègue de travail, que le lendemain, cette personne ne fera plus partie de la section de contrôle qu'elle dirige ou qu'elle anime. Et donc, elle ira demander des comptes au directeur.
D'accord.
Elle ira demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en est.
D'accord.
Et il va sortir des éléments indiquant qu'elle serait à l'origine de la souffrance de cette personne.
Très bien.
Le discrédit sur sa personne.
Ouais. Et alors, pour le moment, il n'y a pas encore de lien direct avec Tefal, et pourtant...
Sur ce premier entretien, il n'y a pas de lien direct. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à ce qu'il y ait une date d'enquête. Elle dit, attendez, moi je suis mis en cause, moi je veux quand même pouvoir me défendre, donc je vous demande un autre entretien.
D'accord.
Et cette fois, elle y va assister d'un représentant syndical, du SNU.
D'accord. Alors, c'est la FSU du ministère.
La FSU au ministère du Travail. Et donc, elle y va. L'entretien est très houleux, puisqu'au départ, dès le départ, le directeur refuse qu'elle soit assistée. Donc, le ton monte assez vite, et puis elle se défend point par point, si bien que le directeur n'a aucun argument, mais qu'il laisse quand même planer le doute quant à une éventuelle fonction disciplinaire.
D'accord.
Et il lui dit, je vous reviendrai vers vous pour préciser si cette fonction aura lieu ou non.
D'accord. Alors là, on va faire là, comme il y a deux facteurs qui viennent se percuter, si j'ai bien compris, on va faire un tout petit retour en arrière, on va revenir à Tefal. À ce moment-là, elle est en phase de vérification.
Elle a contrôlé Tefal durant l'année précédente, et elle a fait divers contrôles, et notamment un contrôle sur saisine d'une organisation syndicale de l'entreprise, visant à s'assurer de la légalité de l'accord d'aménagement de la durée du travail, l'accord ARTT.
D'accord. Donc, vérification de légalité. Alors ça, je me tourne vers Sarah. Donc, quand on a un accord comme ça de réduction du temps de travail, on peut émettre un avis.
Oui, bien sûr.
Ça fait partie
rien d'extraordinaire à ça.
Rien d'extraordinaire.
C'est même pire. La DGT le préconise dans son guide de contrôle. La Direction générale du travail, préconise justement ce type d'intervention.
C'est ça.
Donc en fait, elle a suivi de très près, puisqu'elle était en lien tout le temps avec le formateur sur ce sujet, pour qu'il l'assiste et qu'il l'aide. Donc elle a strictement suivi les consignes de la Direction générale du travail.
D'accord.
Et elle a donc constaté que cet accord n'était pas légal quand il avait été signé. Et elle a donc invité l'entreprise à renégocier cet accord, comme le guide de la Direction générale du travail le prévoit d'ailleurs, avant, en prévenant l'entreprise que dans l'éventualité où elle ferait un nouveau contrôle, cette fois de la durée du travail, elle ne tiendrait pas compte de l'application de cet accord et qu'elle évaluerait le temps travaillé par les salariés sur une base de 35 heures, comme si aucun accord n'avait été
signé. Oui, c'est ça. C'est grosso modo, si l'accord ne tient pas, on retourne sur le régime standard.
On retourne sur le régime standard.
Et là, les heures supplémentaires, ça se cumule.
Là, ça se cumule. Et donc, il est possible que soit constaté un travail dissimulé par dissimulation d'heures.
Voilà. Donc, elle n'a pas encore mis en cause.
Pardon ?
Elle n'a même pas encore mis en cause à ce moment-là.
Non, elle n'a pas encore remis en cause ce point-là.
C'est ça. D'accord. Elle avertit.
Voilà, elle avertit. Et puis, le directeur va revenir à l'issue de ces deux entretiens. Et cette fois, va lui demander d'aller dans son bureau. Donc, elle se dit, je vais savoir à quelle sauce je vais être mangé. Je vais savoir ce qui se passe réellement. Et savoir surtout si je vais être sanctionné. Et là, l'entretien, quand elle arrive, il y a déjà la directrice adjointe du travail qui l'attend, qui est annoncée comme la personne qui va prendre les notes. Et immédiatement, le directeur enchaîne sur l'entreprise Tefal, notamment sur cette problématique de contrôle de l'accord d'aménagement du temps de travail. Mais il part un petit peu dans tous les sens. Il va sur d'autres entreprises, d'autres pratiques de contrôle, sur sa stratégie de contrôle dans cette entreprise. Mmh. Il mélange tout, il la menace en lui disant « Attention, je vous préviens, je vous mets en garde », voilà ses mots. « Je vous mets en garde, il va falloir que vous changiez d'attitude ». Car cela peut aller très loin et venir de très haut.
C'est ça.
Donc elle est un petit peu décontenancée, mais elle ne se laisse pas faire. Elle essaye de se défendre, de donner des arguments, de dire « Mais comment vous avez eu ces informations ?»« Mais attendez, mais moi, j'ai fait que mon travail. Enfin, » On peut en discuter, mais là, on n'est pas sur un échange de pratiques professionnelles. Là, on est, vous remettez carrément en cause mon travail et je ne vois pas le lien avec les deux précédents rendez-vous.
C'est ça. D'un coup, le loup sort du bois.
Et d'un coup, le loup sort du bois. Donc elle va sortir de cet entretien... qui a duré près de 2 heures quand même, hein, complètement détruite. Elle va être immédiatement en arrêt de travail pendant quelques semaines, une ou deux, je n'ai plus exactement la date. Et quand elle va revenir, elle va essayer de reprendre son travail normalement, mais bon, c'est difficile. Hein, après, quand vos compétences professionnelles ont été mises en cause, vos compétences individuelles sont mises en cause. Au sein du collectif, vous vous sentez isolé et stigmatisé. Mmh. Donc très vite, elle va se dire qu'elle ne peut pas laisser les choses en l'état. Mmh. Et elle va rédiger un courrier relatant avec précision chacun des éléments qui ont été énoncés dans ce dernier entretien.
Oui. Ce que personne ne sait à ce moment-là, c'est que en fait, le directeur du travail concerné a déjà rencontré le DRH de Tefal. Ça aura son importance par la suite, en fait. Hein.
Voilà.
C'est
pour ça que on le verra après. Ça voilà. Va nous être révélé.
Voilà.
Et en fait, la veille de ce fameux entretien, le directeur du travail était en rendez-vous avec le DRH de l'entreprise Tefal et à aucun moment il n'a pris la peine de mentionner à l'agent qui était mis en cause, enfin qu'il mettait en cause. Cet entretien, ni même les raisons pour lesquelles cet entretien a eu lieu.
Mmh. Alors, donc, là, on a déjà un cas de hiérarchie qui enfonce un peu son agent, on va dire, hein, quand même. C'est assez violent, en fait. Hein. Ça fait feutrer comme ça, même si les termes sont déjà assez forts, mais en fait, c'est très déstabilisant hein, quand ça arrive. Et donc, l'arrêt maladie se prolonge, en fait, c'est ça, hein.
Voilà, alors elle revient quelques semaines d'arrêt maladie, là elle arrive à donc faire ce courrier dont j'ai parlé, à la direction, et dont elle transmet copie aux organisations syndicales pour demander leur soutien, et dans la foulée, elle va aussi déclarer un accident de service.
Accident de service, qui est alors l'équivalent...
L'équivalent de l'accident du travail dans le privé.
Voilà, c'est ça, exactement. On dit accident de service dans la fonction publique.
Sauf que dans la fonction publique, il faut que ça soit accepté et reconnu par la hiérarchie.
Ça, c'est un nœud du problème. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cet accident de service ? Qu'est-ce qui va se passer, en fait ?
Alors, en fait, bah, elle va le déclarer. Mmh. Ensuite, elle va être en arrêt maladie pendant plusieurs mois.
D'accord.
Au moins 3 mois, hein, toutes les parties. Pendant tout l'été 2013, elle alternera arrêt maladie congé, arrêt maladie. Donc, elle va rester éloignée du travail au moins pendant 6 mois. Mmh. Un jour, elle va recevoir un courrier... de l'administration locale, lui indiquant que comme elle atteint la limite de 3 mois et qu'elle est en arrêt maladie et non en accident de service, eh bien, elle ne va plus être rémunérée.
Voilà.
Elle va être sans solde.
D'accord.
Donc, elle demande des explications immédiatement et il s'avère que cette demande est restée dans le tiroir de l'administration et n'a jamais été traitée. Car si elle avait été traitée, soit l'administration aurait reconnu l'accident, soit s'il conteste la teneur de l'accident, ils doivent saisir ce qu'on appelle la commission de réforme, qui est une commission médicale présidée par la préfecture, qui doit rendre un avis préalable avant le refus par l'administration de la reconnaissance de cet accident.
Mais là, l'administration n'a tout simplement rien fait.
Et là, l'administration n'a tout simplement rien fait. On peut se demander pourquoi.
Alors, c'est vrai que là, la situation est bloquée. Alors, si je récapitule un peu la chronologie, l'entretien fatidique, le dur, là, qui a déclenché l'arrêt maladie, a eu lieu vers mars-avril 2013. Là, on est rendu à la fin d'année 2013, enfin vers l'automne 2013. La situation est bloquée. Et
pendant tout ce temps-là, donc nous, on a essayé de d'avoir des renseignements. Hein. Donc, par respect du contradictoire, on a commencé déjà par solliciter le directeur par mail, lui demandant des explications. Mm-hmm. On a demandé également que nous soient produits ou que soient diffusées ces fameuses notes prises par la directrice adjointe du travail qui a assisté à cet entretien houleux. Et là, c'est le mur du silence. Donc, le directeur du travail fait un refus catégorique à toutes nos demandes, réitéré à plusieurs reprises, y compris oralement dans les instances telles que le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail locales. Et donc, face à ce refus, on commence à se dire qu'il va falloir qu'on aille un petit peu plus loin dans ce dossier, quoi. Et c'est là, à ce moment-là, en novembre, donc 2013, qu'elle va recevoir un mail anonyme d'une personne qui lui dit que visiblement il a les moyens de démontrer qu'elle a subi des pressions. De l'entreprise Tefal sur son directeur et donc visiblement répercutées sur elle. Et il joint à son mail des documents dont elle va prendre connaissance qui sont complètement
hallucinant, c'est ça, hein?
Hallucinant, quoi.
Oui.
Parmi ces documents, on a quoi? On a un mail entre la hiérarchie de Tefal, entre la direction de Tefal, où il est dit que, tiens, j'ai appris que de notre correspondant du MEDEF, de l'IUMM, finalement, il est possible de déplacer cette inspectrice de son secteur de travail et que le directeur du travail a le pouvoir de le faire, mais il faudra aussi qu'on passe qu'on passe voir le préfet.
D'accord. Alors,
ça, c'est le premier
mail. À ce stade, c'est assez présomptueux de leur part, non?
À ce stade, c'est assez présomptueux de leur part, parce qu'effectivement, un agent de l'inspection du travail est nommé par arrêté sur un secteur géographique et ne peut être déplacé, même pas par le directeur du travail.
Oui.
Donc, effectivement, c'est un petit peu grossier si le directeur du travail est lavé. Directement, avait déplacé notre collègue, ça serait un petit peu vu. Donc je pense que ceci explique cela. Il a choisi un autre moyen pour l'écarter ou lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle revoie ses positions dans l'entreprise.
Et effectivement, donc, c'est là pour ça qu'en rétrospect, on va dire, enfin en retour, on voit que l'affaire s'éclaire d'un jour nouveau, y compris l'angle d'attaque par la gestion du service, par les relations interpersonnelles dans le service.
Eh ben, il y a tellement de coïncidences que on peut se demander si cette accumulation de coïncidences n'a pas un sens.
Oui.
Et finalement, bien sûr, c'est un jour nouveau pour notre collègue, pour Laura, qui elle tombe des nues. Hein, effectivement, qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis dans une machine à broyer de l'agent de l'inspection du travail. Et je suis au milieu de ça. Le problème, alors que ça fait des mois que je crois que le problème vient de moi, en fait, le problème, il vient pas de moi. Il vient de du fait que j'ai pu faire mon travail. Donc, parmi ces documents, notamment, on a aussi un tableau, tableau Excel, qui est assez bien fait. Le fameux tableau. Et donc, il y a un document interne à Tefal qui retrace tous les éléments problématiques en termes de crise sociale que l'entreprise peut rencontrer en interne, mais également à l'externe, vis-à-vis d'autres partenaires, comme l'inspection du travail. Et là, on voit que l'inspectrice du travail est clairement nommée. Elle est indiquée en risque noir, danger plus. Et donc, le moyen que l'entreprise a trouvé pour lutter contre le risque que représente l'inspection du travail, eh bien, il y a toute une colonne qui détaille, finalement, quelles sont les mesures qui ont été prises. La première mesure, ça va être de prévenir le directeur du travail. Deuxième mesure, ça va être de contacter la préfecture et notamment les services des renseignements généraux. Et le nom de la personne des RG est clairement indiqué. Ensuite, ça va être de prendre rendez-vous avec le directeur du travail. Et ensuite, il est indiqué, nous allons attendre de voir si son action porte ses fruits.
Et
donc, mois par mois, ce tableau évolue. Avec ces petites phrases que je vous donne, mois par mois. Donc là, nous attendons de voir si son action porte ses fruits. On est en mai.
C'est ça.
Bizarrement, le mois qui suit l'entretien qu'elle a eu avec ce directeur. Et le mois suivant, c'est notre inspectrice est toujours en arrêt de travail. Donc finalement, l'action a porté ses fruits. Et le mois d'après, c'est attention, elle est remplacée par une inspectrice du même acabit.
D'accord.
Donc, il y a une alerte, visiblement. Il y a une information qui est diffusée à l'encontre de Tefal afin qu'il sache...
Attention, il y a de nouveau une inspectrice du travail qui va s'occuper d'eux.
Voilà, il y a de nouveau un risque, quoi.
Oui, c'est ça. Ils ont plus une objection sur le fait qu'il y ait une inspectrice du travail qui s'occupe d'eux que sur...
Le fait de la personne.
Oui, que ce soit Laura.
Proprement dit.
Donc on voit bien là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une plongée dans les mécanismes de la pression extérieure indue. Clairement, là on voit bien comment on s'y prend en l'absence de dispositions légales permettant de muter d'office.
On voit bien comment dans un cercle étroit, celui de la Haute-Savoie, où certaines puissances sont en relation, ne serait-ce que parce que le directeur du travail a quand même des prérogatives d'emploi, donc il est en contact en permanence avec ce type d'entreprise pour faire passer des contrats de génération, pour animer les contrats d'avenir, qui sont des mesures de l'emploi orientées et pilotées par la préfecture. Faut rappeler que le directeur du travail n'est pas indépendant comme les inspecteurs du travail, puisqu'il est sous les ordres directs de la préfecture, notamment en matière de gestion des mesures de l'emploi. Donc on voit bien que cette fréquentation a créé un lien qui fait que finalement, ces personnes n'hésitent pas à s'échanger des services. Et la preuve en est, c'est qu'un autre mail indique très clairement qu'il y ait un échange cette fois-ci entre le directeur du travail et l'entreprise Tefal, et le DRH de l'entreprise Tefal, où le directeur du travail finalement remercie très chaleureusement l'entreprise d'avoir pu placer un jeune en stage pour lui permettre de parfaire ses études. Et l'entreprise lui répond qu'il n'y a aucun souci et que c'en est fait un plaisir.
Ah bah, ils auraient été vraiment de mauvaise grâce s'ils ne lui avaient pas accordé ça.
Et vraiment, je ne crois pas qu'il fasse partie des prérogatives d'un directeur du travail de s'occuper du placement des jeunes en stage. Donc, je ne sais pas qui est cette personne, mais
qui était ce jeune, oui.
Visiblement, il semblerait que notre directeur la connaisse.
C'est quand même très fort.
C'est intéressant. Donc voilà. Donc quand elle découvre ces documents, c'est un choc. C'est un choc pour elle. Et elle décide. Parce que la hiérarchie ne répondant pas, ne répondant nulle part, que ce soit la hiérarchie locale ou la hiérarchie régionale. Au contraire, dans la mesure où elle a même des bâtons dans les roues dans la reconnaissance de son accident de service, elle se dit il faut que je passe plus haut. Oui. Il faut que je passe plus haut. Donc je vais saisir le Conseil national de l'inspection du travail, le CNIT. En transmettant ces documents afin qu'ils puissent faire une enquête, parce que j'ai demandé une enquête et toujours pas d'enquête qui a eu lieu en interne dans ces services, et afin qu'ils puissent éclairer et mettre en lumière ce qui se passe réellement dans ce département.
Tout à fait. Alors juste pour info, donc le CNIT est l'instance nationale de surveillance de la déontologie en fait, c'est ça, qui vérifie et qui en fait le même travail au niveau de la France, un peu que le Bureau international du travail, en vérifiant les problèmes de déontologie, les pressions extérieures, etc.
Il est notamment garant de l'indépendance des inspecteurs.
Exactement.
Du travail, où il peut porter un avis sur, parce qu'il ne porte que des avis, le CNIT. Donc elle va saisir le CNIT, elle va transmettre ses éléments au CNIT et elle va transmettre en copie aux organisations syndicales sa saisine, pour les informer afin qu'ils continuent de l'aider.
D'accord.
Donc dans la suite de ce qui se passe, c'est que
elle reste pas inactive sur le plan judiciaire non plus d'ailleurs. C'est ça, c'est bien suivi.
Voilà. Donc par la suite, elle va rédiger un PV d'obstacle.
Voilà.
Là, on va être en début de l'année 2014. Elle va s'employer à commencer à rédiger son PV d'obstacle sur ses documents, qu'elle transmettra ultérieurement au parquet.
Alors, le PV d'obstacle, l'obstacle, c'est le fait de faire obstacle aux fonctions d'un inspecteur ou d'une inspectrice du travail, ou d'un contrôleur ou d'une contrôleuse du travail, dans le cadre de ses fonctions. C'est, grosso modo, refuser des documents ou entraver, d'une manière ou d'une autre,
le contrôle. Oui, les contrôles. Et là, en l'occurrence, l'obstacle est le fait de l'avoir isolée et éloignée de cette entreprise afin qu'elle ne mène pas à terme les suites qu'elle avait initiées.
D'accord. Ok, donc normalement, alors quand on fait ce travail-là, évidemment, on intéresse la justice. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe, mais pas exactement comme prévu, si j'ai bien compris.
Eh bien, en fait, ce qui est un peu paradoxal, c'est que, alors que l'enquête du CNIT se met en route, alors qu'une inspectrice générale des affaires sociales, qui est membre du CNIT par ailleurs, vient faire une enquête interne au début de l'année 2014, Parallèlement, elle reçoit une convocation pour être entendue en tant que témoin dans le cadre d'une plainte déposée par l'entreprise Tefal pour vol et recel de documents.
Parfait, d'accord.
Donc, elle n'aura pas, malgré sa sollicitation de l'administration centrale, la protection fonctionnelle, hein, ce qui lui permettrait de, d'être accompagné, suivi par un avocat sans...
Payé par l'administration.
Sans payer ses services. Et elle aura juste une assistance juridique temporaire qui lui sera accordée avec un choix très limité d'avocat.
D'accord.
Donc, elle va être entendue. Et finalement, comme l'avocat sera présent, elle sera entendue en qualité de garde à vue. En fait,
et bim.
En réalité. Donc, elle fera son audition et puis elle en restera là. Parallèlement à ça, elle attend que cette enquête du CNIT donne son avis et rende un avis qui lui permettrait de pouvoir être réhabilité dans ses fonctions et retourner faire son travail tout simplement.
Et là, on voit qu'en fait, on avait déjà vu une inaction de l'administration un peu plus en amont, notamment sur le problème de l'accident de service. Et là, on s'aperçoit que, en fait, c'est une technique, en fait, puisque on se retrouve, si je ne m'abuse, dans la situation où sa situation personnelle et professionnelle se complique sans arrêt du fait de cette inaction. Hein, c'est ça. Hein.
Oui, on le voit bien. Et puis, on voit bien que la hiérarchie ne veut absolument pas qu'une enquête soit diligentée, ne veut absolument pas aider d'une quelconque manière cette collègue, puisque finalement, quand l'article de presse de l'Humanité qui a révélé cette affaire sort, le directeur régional, sans même s'assurer de la véracité des propos, condamnera les déclarations qui sont portées, condamnera la saisine du CNIT de Mme Pfeiffer, clairement. Et donc ne lui apportera aucun soutien, quoi. Dans le même niveau de laisser faire, la reconnaissance de l'accident de service, donc la commission de réforme a lieu en décembre. Et finalement, l'administration ne reconnaîtra pas l'accident de service par la suite et refusera que cet accident puisse être considéré, quoi. Et donc, ça aura des conséquences pour elle, parce que en réalité, elle ne va pas pouvoir avoir de congés pendant toute l'année 2014, car les congés, elle les a déjà utilisés pour finir les 3 mois d'arrêt, puisqu'elle est restée en arrêt bien plus longtemps, et elle va les utiliser parce que dès son retour dans les services au mois de novembre 2013, le médecin du travail va préconiser de la placer en temps partiel thérapeutique. Et ça ne sera pas mis en œuvre par l'administration, ce qui aura pour effet, en réalité, qu'elle pose systématiquement des congés pour avoir droit à son mi-temps thérapeutique. Alors, ce qui fait qu'en 2014, elle arrive en début d'année 2014 sans plus avoir de congés.
Alors, juste pour information, on a parlé de l'affaire Marteau. Et on voit bien ici comment, par son inaction ou bien par sa participation, et là on est un peu dans le schéma similaire, c'est-à-dire que la haute administration, nos supérieurs hiérarchiques, peuvent tout à fait abandonner complètement leur rôle de défense contre la pression extérieure indue et devenir au contraire une caisse de résonance de la pression extérieure. C'est ça, hein?
Grosso modo, en laissant faire ou en faisant des actes soi-disant dans la légalité de l'administration, en tout cas tous les actes sont engagés dans un sens. Celui de poser des jalons, des problèmes au fonctionnement normal du service et à l'exercice normal du travail de Mme Pfeiffer.
Ouais. Heureusement, hein, il y a le parquet qui nous soutient dans notre action et qui suit nos procès-verbaux. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, nous avons rapidement des nouvelles du parquet, n'est-ce pas?
Oui, puisque finalement, notre collègue sera plutôt déféré... le 5 juin dernier est accusé accusé d'avoir recelé ces documents plutôt que ces procédures qui sont toujours en enquête soient poursuivies, quoi.
Attends, je comprends pas bien là. Notre collègue est déféré devant le parquet.
Elle est citée à comparaître le 5 juin 2015 On a sauté quelques étapes là,
ouais,
mais elle sera finalement citée à comparaître pour celle suite à l'audition qu'elle a
eue. C'est ça.
Et ces procédures, elles, seront toujours en enquête à cette date.
C'est ça. Donc on n'a pas de nouvelles de la procédure d'obstacle. Par contre,
voilà,
la procédure intentée par Tefal à son encontre, elle a prospéré.
Voilà.
Et oui, on en est là.
Mais entre temps, ce qui est intéressant, c'est que il y a eu l'avis du CNIT qui est sorti.
Et oui.
C'est que l'enquête interne a vu le jour et les conclusions qui y sont données sont édifiantes, puisque le CNIT reconnaît clairement et le dit explicitement que l'entreprise Tefal et la préfecture ont exercé des pressions extérieures indues.
Voilà.
Clairement, elle le dit.
On revient.
L'avis condamne aussi l'inaction à tous les niveaux de la hiérarchie.
Oui.
Et là, plus modéré, l'avis tranche que il ne peut pas réellement qualifier le relais de ses pressions par le directeur, mais quand même, on comprend bien que du fait de ces entretiens, notre collègue inspectrice du travail a pu avoir, comme le dit l'avis, a pu avoir le sentiment que ces pressions étaient relayées par le directeur et comportaient atteinte à son indépendance.
Oui, bon.
Donc, si elle a pu avoir le sentiment, mais le CNIT ne dit pas qu'il y a eu relais. Donc, c'était assez intéressant aussi, cet avis qui est mi-figue, mi-raisin, et qui dit à moitié mot, à demi-mot, ce que nous comprenons tous quand nous le lisons, quoi.
Ouais, d'accord. Oui, le CNIT peut pas aller vraiment jusqu'au bout, mais bon, on a compris que là encore, on a un cas avéré de pression extérieure indue, relayée par la hiérarchie. Et donc, on voit bien que la garantie d'indépendance dont on parlait au tout début de l'émission, c'est très relatif et c'est pas forcément comme ça que ça se passe dans la vraie vie, pas vrai ?
Et voilà. Voilà, voilà.
Bon, alors où est-ce qu'on en est maintenant là ? Alors, la prochaine étape, c'est quoi ?
Alors, la prochaine étape, c'est que, bah, fort de cet avis quand même, qu'il la réhabilite. Notre collègue, elle a quand même le courage de retourner dans l'entreprise Tefal en septembre 2014 avec des collègues et de mener à bien les suites qu'elle avait, des contrôles qu'elle avait initiés.
D'accord. Et en termes judiciaires, alors j'avais relayé dans une précédente émission effectivement l'appel à mobilisation et la mobilisation qui a eu lieu à Annecy le 5 juin, mais l'affaire n'a pas été jugée ce jour-là en fait. Hein.
Voilà. Donc en fait après. Elle sera citée, alors pour l'anecdote quand même, parce que c'est intéressant, le directeur du travail en décembre 2014 est quand même, sort quand même de ce département.
Ah.
Il est muté par la direction générale. Hein.
Ah oui.
Donc ce qui est intéressant, c'est que il aura une promotion.
Et oui.
De directeur, il va devenir délégué à l'innovation et au développement dans notre école de formation post-créée à sa mesure.
Et c'est pas logique ça, il a bien innové, non ?
Donc finalement, il a bien innové dans les pratiques de blocage de l'inspection, peut-être.
Ouais. Tout est comme de juste. Bon, alors juste, je vais passer oui, vas-y.
Et donc le nouveau directeur qui a pris le relais, pour la petite anecdote, va avoir un rendez-vous avec le parquet début avril 2015. Alors début avril 2015, il a un rendez-vous avec le parquet et bon, la citation à comparaître de notre collègue est signée du procureur du 3 avril, donc le lendemain de cet entretien.
Parfait.
Et elle ne recevra cette citation finalement que le 8 mai. Donc le 8 mai, elle reçoit cette citation à comparaître et elle n'a qu'un mois pour organiser sa défense, donc le 5 juin, ce qui fait que finalement elle va reporter ce procès qui aura lieu le 16 octobre prochain.
D'accord, qui aura lieu donc le 16 octobre prochain. Alors donc justement, je vais en profiter. Déjà, je te remercie pour ton exposé extrêmement complet de cette affaire, qui est quand même extrêmement embrouillée. Je pense que tu t'en es tiré de main de maître. Donc merci beaucoup Kevin.
Merci à toi.
Il n'y a pas de souci. Nous allons relayer aussi effectivement l'appel à mobilisation. Donc il y a un appel à mobilisation. Alors si j'ai bien suivi, les syndicats interprofessionnels de la région Rhône-Alpes appellent à mobilisation donc le 16 octobre hein, à Annecy. Si voilà où est-ce qu'on en est. Les syndicats d'inspection du travail à l'échelle nationale appellent à descendre ou monter, c'est selon, à Annecy le même jour. Et on espère d'être encore plus nombreux. Que l'on a été le 5 juin, pas vrai ?
Voilà. On espère d'être plus nombreux, puisque là, l'affaire a encore pris d'autres proportions, suite aux propos que le procureur a pu tenir quand il s'est répandu dans la presse, où il est clairement question d'un procès politique, où ce qui est en jeu, c'est l'inspection du travail en tant que telle, ses missions. C'est aussi le droit de se syndiquer, puisque le procureur annonce que les inspecteurs du travail n'auraient pas le droit de se syndiquer, ce qui est une aberration, puisque c'est un droit constitutionnel.
Oui.
Et qu'il va faire le ménage.
C'est
donc
ça.
Il annonce son intention qu'il va faire le ménage dans nos services.
Dans nos services.
Donc voilà, je pense qu'on peut tous répondre le 16 octobre en étant présent là-bas à Annecy que
c'est
personne
ça.
Ne fera le ménage à l'inspection du travail.
Mais par contre, on va nettoyer le parquet. Ça, on l'a déjà utilisé et on la refera. Merci beaucoup. Hein. Donc, on reviendra effectivement sur la politique des parquets après une petite pause musicale de circonstance.
Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins. Vont se refaire concurrence et le bagne se peuplera. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront.
Alors, les mauvais jours finiront, justement. On ne veut pas finir sur une note trop pessimiste. Donc, Sarah, dis-nous qu'on n'est pas mort. Allez.
Bah déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que quand même, dans l'affaire Marteau, le BIT s'est prononcé.
Oui.
Pour ce qui est de notre collègue Laura, j'espère quand même que le 16, la mascarade va se terminer.
Ouais.
Et ensuite, bon, déjà, moi, je pars toujours du principe que si on nous muselle autant, c'est qu'on... On a potentiellement une force de frappe.
Bah oui, c'est qu'on gêne.
Voilà, qu'il faut donc s'en servir. Et je pense par exemple à la situation de tous les travailleurs sans papier surexploités. Et donc actuellement dans le ministère, on a mis en place une intersyndicale avec des collectifs sans papier pour justement essayer de contrer les consignes de la hiérarchie qui, eux, voudraient nous faire collaborer à la tendance actuelle de ramener à la frontière le plus vite possible et justement d'élaborer un guide de bonnes pratiques qui permettrait et aux sans-papiers de savoir qu'en fait l'inspection du travail peut les aider et aux agents de l'inspection du travail de savoir que nos prérogatives nous permettent d'aider ces salariés sans-papiers.
C'est ça. Donc on a ouvert un cycle de rencontres avec les collectifs sans-papiers. Et donc on a quelques dates là qui arrivent, notamment le 23 octobre.
Oui.
On va manifester devant le Synorca. C'est ça, le Synorca, donc qui est le syndicat patronal de la restauration où il y a énormément de travail au noir. Ça nous le savons. Les sans-papiers le savent aussi, ça c'est sûr. Et donc on va protester devant les politiques de ce secteur professionnel. C'est une des initiatives. Il y en aura d'autres.
Il y en aura beaucoup d'autres.
Voilà. Donc non, on n'est même pas mort, on bouge encore et on continue à se battre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. On a laissé parler Kevin, c'est ce qu'il a dit était extrêmement intéressant. Donc effectivement, on va devoir reparler de ce qui nous concerne sur les activités en positif. J'espère qu'on aura des échos lors de la prochaine émission qui sera le 16 octobre, de ce qui se passera à Annecy. Moi, je serai là pour faire le relais. Et par ailleurs, on parlera aussi de toutes les autres offensives que nous menons en ce moment pour faire respecter le droit du travail et pour faire respecter les droits des salariés. C'était donc un secret de fabrication spécial qui veut museler l'inspection du travail et on ne compte pas se laisser faire. Merci beaucoup.
Begging, please.